La bourse cash. Florian Hielpeau est avec nous. Bonjour Florian. Depuis les bureaux de Lombard Odier. Florian, vous voulez dire au marché et aux investisseurs leurs quatre vérités. Êtes-vous sûr ?
C'est sûr.
Voici votre message aujourd'hui, Florian. Pour vous, c'est simple. Les marchés sont en train de nous faire une crise d'adolescence. Rien de moins. Vous l'assumez ?
Je l'assume. Oh.
Les marchés font leur crise d'adolescence. Voilà le marché que vous, le message que vous passez aujourd'hui aux investisseurs. Pourquoi était-il prioritaire alors de le dire aussi fermement? Les marchés font une crise d'adolescence. Et pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à penser cela surtout, Florian?
Parce qu'on observe en ce moment la formation d'une espèce de prime sur le marché, justement une prime de crise d'adolescence. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter ce que les banquiers centraux disent, ce que Papa Jérôme et Maman Christine sont en train de nous expliquer, quel est le scénario qui semble être celui de 2024, les marchés, cette année, toute l'année d'ailleurs en fait, hein, forment un scénario à eux. On a eu jusqu'à 6 baisses de taux d'anticipées dans la courbe américaine, souvenez-vous, qui sont revenus à 3 baisses après explication de texte. Actuellement, on est à une baisse et quelque chose côté américain, un peu plus côté européen. C'est pas du tout ce qu'on nous a expliqué. La Fed nous a indiqué vouloir baisser ses taux 3 fois cette année. La BCE, hier, a indiqué vouloir baisser ses taux en juin, si les données le permettent. Hein, vous l'évoquiez, prix du baril, baisse de l'euro, il y a des risques encore. Mais en tout cas, il y a un engagement conditionnel, disons. La Banque Nationale Suisse, la BNS, vous le savez, a été la première à baisser. On y est, ça y est. Et pourtant, après avoir fait anticiper encore une fois ces 6 baisses en 2020, le marché maintenant fait évoluer ce pricing et n'écoute rien.
Et justement, vous dites, c'est une crise d'adolescence là, de la part des marchés. Pourquoi? Vous estimez que les anticipations de marché sont en train de devenir du grand n'importe quoi?
Alors, c'est un peu le grand n'importe quoi. Pourquoi c'est le grand n'importe quoi? Déjà, au-delà du fait qu'on n'écoute pas ce qu'on nous explique, on voit sur côté action, côté obligation, des évolutions qui sont frappantes. C'est-à-dire qu'on a des données économiques qui sont en progression, mais le marché qui commence à pricer une prime de ralentissement. On le voit où? On le voit dans le fait que depuis 2 semaines, value sous-performe croissance, que les small and mid sont à nouveau un petit peu chahutés. Côté obligataire également, c'est pas beaucoup mieux. Ce sont les taux réels qui progressent en ce moment. C'est-à-dire, la progression des taux réels, c'est un signe qu'on anticipe que la politique monétaire va devenir de plus en plus restrictive. Est-ce que c'est le message de nos banquiers centraux? Non, je ne crois pas. Et par contre, les anticipations d'inflation, elles ne bougent pas. Alors que nos banquiers centraux nous ont prévenus, on va passer d'une désinflation linéaire à une désinflation plus chaotique. Donc, on peut avoir un repricing d'anticipation d'inflation. Ce sont des anomalies aujourd'hui, en tout cas du point de vue des banquiers centraux.
Donc, ce que vous dites, c'est que, oui, le marché n'anticipe plus qu'une baisse de taux et demi de la Fed d'ici cette année, d'ici la fin de l'année, seulement une et demi. Vous dites, le marché a le droit d'anticiper ça, mais il est très volatile dans ses anticipations. La Fed, elle, ne sera pas volatile dans son cap. Elle le maintiendra. Et même si le marché attend moins de baisse de taux, la Fed, elle, pourrait délivrer plus que ce que le marché attend désormais. C'est ça votre message aujourd'hui aux investisseurs?
Exactement ça, et ça a des conséquences de marché en termes de potentiel. Alors évidemment, on rentre dans la saison des résultats, donc on va beaucoup découper, détricoter la progression des bénéfices des entreprises, soit. Mais pour autant, cette prime de ralentissement qu'on a vu se former, elle forme aujourd'hui, quelque part, elle fait l'attraction potentielle pour les prochaines semaines, justement du segment Europe, émergence, small and mid, ce segment qui commençait sa recovery et qui maintenant est toujours un petit peu chahuté à nouveau. Et puis les taux réels doivent se modérer. Il y a aussi des opportunités de ce côté-là. Il y a des opportunités également dans le marché de l'inflation. Cette inflation, elle n'est pas pricée. Cette remontée de l'inflation, elle n'est pas ou mal pricée en tout cas.
Pour vous, les anticipations de marché deviennent du grand n'importe quoi. Votre message. Alors qu'Étienne nous rappelle la Tour Euronext, la séance en direct. Intéressante cette séance d'Étienne, la dernière de la semaine. On peut peut-être démarrer d'ailleurs par les évolutions du marché obligataire après l'incroyable volatilité cette semaine. On en est où là ce vendredi après-midi, Étienne?
Ça se détend très légèrement. Souvenez-vous, hier, le 10 ans américain était au-delà des 4,6%. Il était à 4,51. En parlant d'inflation, il y a deux facteurs qui sont pas très bons. C'est d'un côté, un euro qui est faible, notamment face au dollar. Rendez-vous compte, l'euro-dollar, il perd quasiment 2% sur l'ensemble de la semaine. C'est la pire semaine pour l'euro-dollar depuis 2022. Et puis, de l'autre côté, un pétrole qui continue de grimper. Donc, le pétrole est plus cher. Et en plus de ça, en Europe, on va le payer plus cher parce qu'on a un euro qui est faible. Quasiment 92 $ pour le baril de Brent. Il gagne 2,5%. 4%. Très forte hausse aujourd'hui. Très forte hausse également pour l'once d'or qui est sur des records historiques à 2 415 $. Mais le CAC 40, lui, il continue son bonhomme de chemin. Plus 0,3%, 8 050 points. Peu ou prou, on est stable sur la semaine grâce notamment à des valeurs qui profitent de la remontée des matières premières. Regardez Total Energy qui est sur un record historique à la porte des 70 euros. ArcelorMittal plus 2,7% à 26,24. Attention quand même, le secteur du luxe qui baisse sensiblement aujourd'hui. En tout cas, vous avez LVMH qui perd 0,8% dans sa publication mardi. De son côté, Hermès perd 0,7%. Kering également perd un peu plus d'1%. Donc, à l'approche des résultats du luxe, le marché vend pour l'instant ses titres.
Oui, c'est sûr. Et la géopolitique commence à peser sur un certain nombre d'actifs. Les actifs refuges de plus en plus achetés à mesure qu'on voit monter cette hypothèse, cette probabilité d'une éventuelle riposte iranienne à l'attaque récente d'Israël. Bon, l'Iran pourrait attaquer massivement Israël rapidement, dit le renseignement américain. L'once d'or monte, plus de 2 400 $, les obligations aussi. Mais pas le marché actions. Il ne souffre pas le marché actions. Il reste proche de ses plus hauts. Les marchés actions sont-ils insensibles? Les marchés actions n'ont-ils pas d'âme?
L'âme, le siège de l'activité psychique et des états de conscience. Les dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment le moi profond.
C'est ça l'âme. Les marchés quasiment au plus haut alors qu'on est dans une situation de grosse tension géopolitique. Les marchés quasiment au plus haut sont-ils insensibles, les mecs, et même manquent-ils d'âme? Florian Hielpeau est toujours avec nous pour Lombard-Odier. Les marchés n'ont-ils pas d'âme, Florian?
Ça, c'est un grand mythe de la perception du grand public. Les marchés financiers froids, calculateurs, sans âme. Les marchés, ils ont, techniquement pas d'âme. Par contre, ces marchés, ils ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils éprouvent des sentiments. On lit des sentiments dans les marchés et le sentiment, c'est quelque chose qui va venir avec l'âme. Vous le savez, le sentiment, c'est un puissant facteur qui peut supporter les marchés tant à la hausse qu'à la baisse. Et ce qu'on observe, en tout cas en ce moment, de ce que vous nous listiez, c'est-à-dire l'évolution des métaux précieux, la prime qui est en train de se former sur les prix de l'énergie, ce sont des manifestations de ces sentiments que l'on peut lire des milliers, des millions d'investisseurs qui interagissent tous les jours sur les marchés financiers.
Et puis il y a les indicateurs de volatilité, le VIX notamment, qui est, ça c'est un signe peut-être, le signe que le marché a une âme. Le VIX est en train d'accélérer un peu à la hausse. Il refranchit aujourd'hui, cet après-midi, la barre des 17, le VIX. Est-ce qu'on entre à nouveau en zone de stress ou on en est encore loin malgré ce contexte géopolitique, lui, tendu, Florian?
Alors, on n'est pas encore en zone de stress. Pour qu'on soit en zone de stress, il faudrait une accélération un peu plus forte encore du VIX, mais qu'il entraîne également dans son sillage un écartement des spreads de crédit. Alors, on a vu un léger écartement des spreads de crédit ces deux dernières semaines, mais c'est plus une anxiété des marchés vis-à-vis justement des banquiers centraux, ce dont nous parlions précédemment, que de la partie géopolitique. Il faut qu'on ait un consortium de marqueurs d'une montée, d'une poussée d'aversion au risque pour pouvoir dire, ça y est, on y est, c'est le moment de replier, de retourner dans le cash ou d'aller dans les obligations d'ailleurs, si c'est là que vous pensez que la couverture se trouve.
Alors justement, les obligations, vous me tendez la perche là, parce qu'on a effectivement ces anticipations de marché, de moins en moins de baisses de taux à venir de la Fed, d'après le marché, donc des obligations qui rapportent à nouveau, les taux obligataires remontent. Est-ce que du coup, là, ça enlève du potentiel au marché action? Est-ce que le marché obligataire, les actifs obligataires, le monétaire aussi, vont plus durablement qu'on ne le pensait concurrencer les actions et donc limiter à nouveau les flux sur le marché action d'après vous?
Ça, c'est une vue qu'on a chez Lombard-Odier. Si votre horizon d'investissement est suffisamment long, comme on dit, the bond is back, les obligations doivent faire leur grand retour parce qu'à moyen terme, elles sont extrêmement attractives. Maintenant, à plus court terme, je ferai une différence entre le monétaire et les obligations elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le monétaire, il reste très attractif et même il challenge la valorisation des obligations à plus long terme qui, elles, sont volatiles. On l'a vu ces deux dernières semaines. Ça peut coûter de l'argent. Vos actifs de couverture, vous voulez pas qu'ils vous coûtent de l'argent, vous voulez qu'ils vous en rapportent. Alors pour l'instant, le monétaire conserve tout son attrait encore du point de vue des investisseurs et c'est lui, d'ailleurs, qui challenge les actions et les obligations à lui tout seul.
C'est Florian Hielpeau en direct BFM Business depuis les bureaux de Lombard-Odier. Merci beaucoup, Florian, de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à notre appel cet après-midi. Bon week-end avec quelques heures d'avance.